Chaque église vit avec une menace sur elle. Chaque église, on vit avec une menace constante. Ça, c'est le même cas pour peu importe d'où tu viens, que ce soit moi à Sorel présentement, que ce soit vous ici à Québec. Chaque église vit avec une menace sur ses épaules. Celle de n'être qu'un bruit. Celle d'être juste un bruit de fond dans le décor de son milieu. Quand je suis devenu parent, j'ai développé cette espèce d'aptitude surnaturelle de pouvoir survivre au bruit, de passer à travers le bruit. Je sais pas, qui est parent ce matin? OK, vous êtes plusieurs, vous savez de quoi je veux parler. Tu sais, il y a un bruit constant chez toi, il y a toujours un petit bruit, il y a un bruit en arrière, tes enfants sont là. Moi, j'ai deux jumeaux de 7 ans, puis une petite fille qui a 2 ans, vous l'avez probablement vu faire des allers-retours sur le banc. Quelqu'un avant la réunion est venu me voir en me disant, c'est ici la boule d'énergie, mais tu n'as rien vu encore, tu n'as juste rien vu là. Moi, quand j'étais petit, j'allais les chercher à la garderie, puis l'éducatrice venait me voir toute blanche en me disant, Monsieur Bruguère, c'est-tu normal que vos enfants déplacent les meubles? Est-ce qu'ils font ça chez vous aussi? Est-ce qu'ils déplacent les choses comme ça? Parce que là, ils sont en train de faire l'arche de Noé à la garderie, puis on ne peut plus rien leur dire, il y a tous les enfants qui les suivent. Oui, c'est normal, ça c'est mes gars. Ça, c'est mes enfants. Il y a tout le temps un bruit constant. Ça, je vous dis, c'est une aptitude surnaturelle, c'est Dieu qui nous donne ça. La capacité de vivre avec un bruit de fond constant. Maman, maman, papa, papa, maman, papa, papa. Puis là, ils sont en train de se taper dessus en arrière de toi dans l'auto, puis toi, t'es tranquille. Tu continues tout droit. Ma femme a développé cette aptitude encore plus que moi. Là. On a 2 enfants, Lucas, nos jumeaux, puis Cara, là, sont tout le temps en train de... Tout le temps. Ils s'écœurent tout le temps, en permanence. Tout le long du trajet, 2h30 vers Québec, là, je suis en train de vider mon sac, ça me fait du bien, là. 2h30 vers Québec, maman, 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 maman. Puis là, il y a l'autre, maman, 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 il m'a tapé, maman, il m'a... Lydie, il n'y a pas un bruit qui sort de sa bouche. Elle regarde la route, elle est tranquille. Son cœur est pur, sa conscience est nette, il n'y a rien là. Elle est capable de vivre avec un bruit constant, d'entendre. Puis elle est même capable de répondre en mode pilote automatique. Là. Elle va répondre oui, elle va répondre des affaires qui ont de l'allure, là, vraiment, c'est sensé, mais elle n'a rien entendu de ce qui lui a été dit. Combien ont déjà vécu ce genre de moment là? Une aptitude surnaturelle. Ce qui est inquiétant avec ça, c'est quand il n'y a plus de bruit. Là, tu commences à te poser des questions. Le bruit, tu t'habitues. Quand j'étais jeune, j'étais en Suisse, puis on restait littéralement la distance du bout du bâtiment. D'ici jusque-là, on avait une ligne de chemin de fer à haute vitesse devant chez nous. Tu arrives, les premières heures, là, tu entends chaque train. Puis nous, on en avait 50 qui passaient par jour. Là. C'est des trains à 200-300 km/h qui passent à toute vitesse. Puis quand tu as la chance, tu as un train de marchandises qui passe pendant une quinzaine de minutes devant toi, puis tu as toute la maison qui shake. Ça a pris 2-3 semaines. Puis après ça, le bruit était disparu, il faisait partie du décor. Je me rappelle qu'on dînait chez des amis dans le coin de Varennes à un moment donné. Eux, ils restent collés aussi à une ligne de chemin de fer, c'est juste du train de marchandises. Puis là, on est à la fin du souper, autour de l'îlot, à la cuisine. Eux, ils ont leurs chaudrons qui sont pendus là. Là, on jase. Tout à coup, on... gling, 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 les chaudrons qui commencent à frapper. Moi, je suis comme, le bâtiment est en train de s'effondrer. Non, 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 c'est juste le train, c'est normal. Un bruit de fond dans notre décor. Un bruit, ça surprend momentanément, mais ça parvient jamais à garder notre attention longtemps. Un bruit, ça dérange, mais ça attire pas vraiment personne. C'est un bruit, c'est dérangeant, mais personne qui va faire un détour pour aller voir c'est quoi, à moins que ce soit vraiment un bruit hyper violent. Un bruit, ça a pas de substance, c'est volatile, c'est là, c'est juste présent. Un bruit, bien qu'il soit permanent, on finit par l'oublier, on finit par passer par-dessus. Et c'est ce qu'on veut pas en tant qu'Église. On veut tout sauf être un bruit. On veut pas juste être un simple bruit, on veut être un message qui pointe vers Christ. Vous êtes là avec moi ce matin? On veut pas juste être un bruit dans notre environnement. Et quand on lit le Nouveau Testament ensemble, si on parcourt un peu les évangiles puis les lettres du Nouveau Testament, c'est impossible de pas remarquer l'impact qu'avaient les simples monsieur, madame, tout le monde qui constituaient l'Église. Je rappelle, là, c'était pas des surhumains de ce temps-là, puis c'est encore pas des surhumains. Là. Personne d'entre nous n'en est un. Mais les simples monsieur, madame, tout le monde qui constituait l'Église de ce temps-là avait un impact incroyable. On voit des miracles qui prenaient place, on voit des vies transformées, on voit des guérisons, on voit des changements de direction. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est la croissance incroyable de l'Église. On voit une Église qui grandit par la puissance de Dieu en action au milieu d'elle. Puis si on va dans Actes 3, les versets 1 à 9, ça apparaît à votre écran. Rapidement dans le contexte, ça apparaît directement après la Pentecôte. Quelque temps après la Pentecôte, l'Église est passée d'un nombre de 120, c'est ce que les Actes nous disent, jusqu'à 3000, de 3000 à 5000, etc. Et dans le passage qu'on lit, Pierre et Jean sont en plein dans une journée normale, une journée banale. journée de tempête en plein hiver au Québec. C'est banal, c'est tout à fait normal. Hein? On est d'accord avec ça. Acte 3, les versets 1 à 9. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière, et Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Et Pierre et Jean, voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi, marche. » Puis il le prit par la main droite, le fit se lever, ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, adressant des louanges à Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Ça, c'est une journée banale, là. Pierre et Jean s'en vont à l'église, comme toi ce matin. Sortis leur petite pelle, entrés dans le char, s'en vont à l'église pour prier. Journée banale. Et là, ils vont tomber sur cet homme qui est complètement incapable de se déplacer, qui peut pas, il n'est pas capable de se financer, il n'est pas capable de fonctionner par lui-même, il a besoin de l'assistance des autres, et ça fait des années que ça dure. Et l'homme, à ce moment-là, va rencontrer Pierre et Jean sur leur passage, il va être guéri miraculeusement. Son état va se remettre dans son état normal, son état physique va retrouver la forme qu'elle est supposée avoir. Et à cause de ça, Pierre va devoir s'expliquer devant les autorités. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il va devoir expliquer comment accéder au salut. Et ce que le texte nous dit à ce moment-là, c'est que l'Église va augmenter vers le nombre de 5000 personnes après ça. Et directement après ça, Pierre et Jean se font arrêter, se font jeter en prison pour finalement avoir l'occasion de témoigner de leur foi devant les autorités. C'était un jour normal, c'était un jour banal, c'était un jour comme tous les autres, comme chacune de nos journées. Ok. Moi, là, je ne sais pas à quand ça remonte une journée comme ça. On n'en vit pas tous les jours. Moi, en 2023, là, des journées normales comme ça, ça ne m'arrive pas souvent. Combien sont d'accord avec moi? Combien croient qu'en 2023, on peut encore vivre ce genre de moment-là? On est appelé à vivre des choses comme ça. On est appelé à vivre des moments incroyables où on voit l'œuvre de Dieu en action devant nous, comme les premiers chrétiens. Oui, les premiers chrétiens ont vécu de la persécution, et oui, on vit des choses difficiles, nous aussi. Oui, il y avait les soucis de la vie, comme nous, pour nous aussi. Il y avait des défis, mais ce qui a toujours caractérisé l'Église de ce temps-là, c'est la manière dont Dieu agit avec puissance par son esprit. Puis on est appelé à vivre ces choses-là encore, nous aussi. Amen. Ça va? Vous êtes là ce matin? C'est la neige, hein? C'est la neige. On est appelé à être plus qu'un simple bruit. On est appelé à être bien plus qu'un simple bruit dans la société. On est appelé avant tout à être des témoins de sa puissance en action. Vous savez, quand Jésus a été crucifié, quand Jésus est allé sur cette croix, quand Jésus a choisi, parce que la Bible nous dit que Jésus a laissé sa gloire, il a choisi de la laisser, a choisi de laisser sa gloire, il y a un transfert qui s'est opéré à ce moment-là. Alors que Jésus était parfaitement sans péché, il n'avait pas dévié, il n'avait pas passé à côté. Alors que Jésus se donnait en sacrifice, sa justice nous a été communiquée, c'est ce que la Bible nous dit. Et les fautes de tous ceux qui placent sa confiance en lui, elles ont été mises sur son compte à lui. J'ai un petit panneau là que j'ai pris soin de compléter ce matin. Merci pour ceux qui m'ont aidé. Il pèse une tonne. On va essayer de ne pas se rebloquer le dos et de ne pas casser le panneau surtout. Je remplissais ça ce matin, puis je ne sais pas si on voit à la caméra comme il faut. Yes, on voit quand même. Ça, c'est nos vies. Hein? Ça représente pas mal nos vies. C'est ce qu'on est. Tellement de choses. La violence, du deuil, des regrets, perte d'emploi, la dépression, toutes sortes d'affaires, ruptures, toutes sortes de choses qui peuvent caractériser nos vies, qui peuvent caractériser nos échecs, qui peuvent caractériser nos fautes, qui peuvent caractériser ce qu'on vit. Quand Jésus est allé sur la croix, littéralement, il a porté ça sur son dos. Il a porté mon passé d'orgueilleux, il a porté toutes les étiquettes qu'on a mises sur moi. T'es pas assez, t'es trop petit, t'es trop ci, t'es trop ça. Tellement de choses qu'on peut porter sur nous. Il a porté les abus qu'on a vécus, il a porté la violence qu'on a peut-être vécue, qu'on a peut-être commise, il a porté nos infidélités, il a porté ses péchés répétés, il a porté toutes ces choses-là, il a porté mes problèmes d'alcoolisme, il a porté le deuil suite au suicide que j'ai vécu dans la famille. Un ami proche, quelqu'un cette semaine m'appelle, je suis dans l'auto, puis m'appelle en me disant que son voisin du dessus s'est enlevé la vie et elle a vu le corps, et était dans une crise, il a porté ces choses-là, tous les drames qu'on a pu vivre dans nos vies. Il a pris ça sur son compte. Et quand on lit dans la Bible que Jésus a littéralement pris la place qui était la nôtre, il a porté le poids de nos fautes, c'est qu'en fait, des fois on a de la peine à le comprendre, mais toutes ces choses-là, littéralement, quand le transfert a pris place, toutes ces choses-là ont été effacées à la croix. Toutes ces choses-là ont été enlevées. Toutes ces choses-là ont été détruites, ont été mises à terre, ont été retirées complètement de l'histoire de nos vies. C'est le cas pour toi, c'est le cas pour chacun d'entre nous quand tu places ta confiance en Jésus. Et ce qui se passe à ce moment-là, quand je parle d'un transfert, c'est que quand Dieu nous regarde, lui, tout ce qu'il voit, il ne voit plus rien. Tout ce que Dieu voit, on va donner une chance à notre tableau. Bon, il n'y a plus. Tout ce que Dieu voit, c'est une croix. Tout ce que Dieu voit, c'est ce que Jésus a fait. On va laisser le tableau pour le moment. Tout ce que Dieu voit, toutes ces marques qui nous caractérisaient, toutes ces choses qui étaient sur nous, quand Dieu regarde à ma vie, à partir de ce moment-là, il voit les marques que Jésus a portées pour moi. Il voit les marques que Jésus avait sur ses mains. Il voit la parfaite justice de Dieu. Il me voit comme il voit Jésus. Vous comprenez ça ce matin? Il y a eu un transfert qui a pris place. Et trop souvent, on a de la misère à réaliser ce que ça implique de se tenir près de Jésus. Trop souvent, on a de la misère à réaliser ce que c'est qu'implique cette nouvelle identité qui nous a été donnée. En venant à Jésus, il y a une nouvelle identité qui m'a été donnée. Avec cette nouvelle identité vient un... On entend abondamment parler de Air Canada ces temps. Nous, on voyageait avec Air Canada, ça fait un petit moment qu'on n'a plus volé avec eux, et je pense qu'on ne volera plus avec eux. Je tiens à mes valises, je tiens à ce que ma famille arrive tout au même moment, au même endroit. Tu sais, quand tu attends pendant 36 heures pour prendre ton vol que tu avais payé, puis que finalement, il y a un agent d'Air Canada qui vient te voir en disant « T'as accès au salon érable, feuille d'érable, super, c'est génial, avec les accès privilèges. Oui, mais je n'ai pas pu prendre mon avion, puis je n'ai plus mes valises. » Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu t'approches de lui, il y a une nouvelle identité qui nous est donnée. Parce que Jésus a pris littéralement chacune de nos fautes, chacune des marques qui étaient sur nos vies. Et que, quand Dieu voit ma vie, il voit les marques que Jésus a prises, lui, sur cette croix. Il voit sa justice parfaite. Et ça, ça nous donne accès, un accès privilège qui donne droit aux ressources, à la puissance du ciel. Des fois, on a de la misère à le réaliser, aux provisions du ciel. L'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 4, le verset 20, « En effet, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. » Et le mot employé ici, c'est le mot « dynamis ». On en a entendu souvent parler quand on vient à l'Église, qu'il y a une puissance qui nous est donnée. Mais littéralement, il y a une puissance. Ce mot traduit l'idée d'une puissance, d'une démonstration de force, littéralement. L'exposition de quelque chose de divin, de quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire. Je ne suis pas en train de nous encourager à chercher le sensationnel dans nos vies. Ça, c'est du bruit. Moi, je prêche l'équilibre, je crois vraiment dans l'équilibre. Jésus lui-même mettait en garde ses disciples contre le fait de se réjouir du fait de l'action de Dieu à travers eux. Dans Luc 10, verset 20, Jésus va dire à ses disciples, « Cependant, vous ne réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. » Mais dans le monde hyper sophistiqué dans lequel on est actuellement, c'est hyper sophistiqué, hyper brossé, où tout roule, on est fort. Hier, on est allé visiter une exposition de Lego qui se fait à Québec, il faut occuper les enfants, puis vraiment super exposition, on voyait des tours qui sont reproduites à l'échelle un peu à travers le monde, puis on arrivait à Dubaï, puis là tu vois les tours immenses, immenses. L'être humain est capable de faire des choses incroyables par lui-même. On repousse les limites. On fait ça depuis des décennies, depuis des siècles, depuis qu'on est sur cette terre. On repousse les limites humaines. On a tendance, dans ce monde hyper sophistiqué, à s'appuyer uniquement sur nos propres forces, à s'appuyer sur ce qu'on voit humainement. Alors qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui a les deux pieds bien sur terre et la tête dans le ciel, qui garde la tête dans le ciel, qui est supposé garder la tête dans le ciel. Je ne veux pas vous encourager à chercher le sensationnel, là. Je vais vous encourager à vivre ces choses-là, à chercher ces choses-là, à chercher l'action de Dieu dans nos vies. Trop souvent, on se contente d'être un bruit. On se contente de feuilles alors qu'on est appelé à porter du fruit. Vous me permettez de vous écœurer un peu? Oui. Dimanche matin, tempête de neige. Il y a une image qui apparaît à l'écran. Ça, c'est l'endroit d'où je viens à l'origine. Juste pour vous écœurer. Un dimanche matin. Je viens d'un endroit, c'est que du vignoble, c'est de la vigne à perte de vue, c'est de la vigne en pente. Puis ma première formation, c'était dans l'horticulture, j'ai eu l'occasion d'apprendre à tailler la vigne, à prendre soin de la vigne. J'ai fait de la viticulture beaucoup aussi. Et littéralement, bien souvent, en tant que chrétien, on produit beaucoup de feuilles, puis on oublie qu'on est appelé à produire du fruit. Quand j'ai appris à faire de la vigne, mon patron avait 70 ans, puis à un moment donné, on arrive, puis tu sais, t'as ton cep, le cep, c'est le tronc, qui est replié, posé sur un fil, puis à chaque année, à la fin de la saison, tu dois couper les sarments, les branches, tu coupes les sarments, t'en gardes un, peut-être deux, pour qu'il attire la sève hors du sol au moment du printemps, puis durant l'été, les sarments repoussent, mais ça pousse à une vitesse, vous n'avez pas idée, là, cette affaire-là, là, sur la photo. En quelques semaines, là, ça passe de brun à vert, puis tu as des branches de plusieurs pieds de longueur. Et moi, première année dans la viticulture, là, j'arrive, puis le boss arrive derrière nous, puis nous dit, il va falloir commencer à tailler, là, parce qu'on n'a que de la feuille, les gars. Puis là, tu commences à tailler, puis tu sabres cette affaire-là, ça n'a juste aucun sens, le tas de feuilles que tu ramasses, c'est débile. Et j'ai appris à faire ça. Puis moi, je lui dis, à un moment donné, je m'obstine avec mon boss, je lui dis, ouais, mais il ne reste plus rien, là, on coupe tout, il n'y a plus rien. Non, continue de tailler, tu vas voir, continue de tailler, nous, on veut du fruit, on ne veut pas de la feuille. Là, je continue de tailler, puis le lendemain, on revient, on doit retailler, il faut revenir, puis là, tu reviens, puis tu continues, semaine après semaine, durant tout l'été, tu passes ton temps à retirer de la feuille. Le but d'émonder tout ça, là, c'est de produire plus de fruits, on ne veut pas de feuilles. Jean 15, verset 4 à 5, c'est ce que Jésus va dire à ses disciples, « Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep. Et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien. » Vous savez, cette semaine, j'avais une étude biblique avec quelques hommes de l'église. Là, j'avais un petit groupe, puis on lisait Colossiens 1. Dans Colossiens 1, je vais vous le lire tantôt, là, Paul prend le temps de démontrer qui est Jésus. Il étale toute la puissance, la suprématie, la grandeur de Jésus. Puis on lit ce texte, puis il y a une question qui a été posée à un moment donné, c'est « Qu'est-ce que ça change dans ma vie ?» Et j'ai eu droit à un festival de criquets. J'ai eu droit à un festival de grillons, c'était le silence total. De savoir que Jésus est tout-puissant, que Jésus est au-dessus de tout, ça change dans ma vie. Personne ne répondait. Puis moi, là, j'étais là, je relis le texte avec eux, puis moi, là, je suis enthousiasmé, je lis ça. Puis de savoir que Jésus est au-dessus de tout, que Jésus est tout-puissant, que Jésus est plus grand, que Jésus a vaincu la mort, que Jésus est venu, que tout a été créé par lui, que tout est fait pour lui. Moi, ça m'enthousiasme parce que je me dis, quelles que soient les circonstances, il est au-dessus. Quels que soient les drames, il est au-dessus. Quels que soient les conflits que je pourrais vivre avec quelqu'un, il est là, ça lui appartient. Tout a été fait par lui, pour lui. Colossiens 1, versets 15 à 20, « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible, l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui, pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. » Paul déclare que Jésus est tout-puissant, que Jésus est au-dessus de tout, que son autorité est suprême, que tout existe parce qu'il l'a voulu, que tout a été fait, en fait, pour être donné en cadeau à Christ. Et flash news dans tout ça, c'est que ce Jésus-là est vivant. Ce Jésus-là est vivant aujourd'hui, il agit avec puissance, il est prêt à agir avec puissance. Et le mandat de l'Église, c'est avant tout d'afficher, d'illustrer, quelque part de pointer vers cette puissance-là, cette grandeur-là, cette suprématie-là. On pointe vers lui. C'est ça notre but, c'est ça notre rôle. On parle de ce qui est vital. Ça fait plusieurs semaines qu'on parle de ce qui est vital pour nous en tant qu'Église. Et j'aimerais dire que la chose la plus vitale, ça prend un amen ici hein, dans mes notes, moi, le plus vital, c'est d'avoir Jésus. C'est d'avoir Jésus dans le milieu. C'est d'avoir Jésus dans le centre de notre attention. C'est d'être prêt à s'attacher à Christ plus que tout. Si on revient dans Actes, Pierre est questionné par les autorités à ce moment-là. Pierre est questionné par les autorités qui refusent ce qui s'est passé. Ils ne peuvent pas admettre que ça vient de Christ quelque part. Ils sont surpris de la démonstration de puissance et tout ça. Et Actes 4, versets 7 à 10, ils firent comparaître Pierre et Jean au milieu d'eux et ils leur demandèrent « Par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chef du peuple, ancien d'Israël, On nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme afin que nous disions comment il a été guéri. Eh bien, sachez-le, vous tous, que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Oui, l'unité, c'est vital. Les actions communautaires, c'est vital. La communion ensemble, c'est vital. Le fait d'être actif dans la communauté, c'est totalement, ça fait partie de notre ethos. La famille, c'est vital. Mais ce qui fait que Mosaïque, ce qui fait que nous, en tant qu'Église, ici, cette Église a un impact qui rayonne dans son milieu. Ce qui fait qu'on est capable d'avoir un rayonnement. Ce qui fait que ma vie tient debout. Ce qui fait que notre vie en tant que chrétien tient debout. Ce qui fait que tout ça, ça a une raison. Ce matin, on vient, on loue Jésus, on s'est levé un matin de tempête. On vient écouter un message un dimanche matin. Les jeunes se lèvent, vont écouter un message. Tout ça, ce qui fait qu'il y a une raison d'être, c'est Jésus. C'est Jésus seul. C'est seulement Jésus. Il n'y a que lui. On pourrait tout enlever. Il ne pourrait rester que Jésus. Et c'est ce qui importe le plus. C'est Jésus seul. Vous savez, c'est parce que Moïse se tenait dans la présence de Dieu. Si on fait un bond dans le passé, dans l'Ancien Testament, alors que dans l'Exode, le peuple était dans le désert, puis il y avait la tente de la rencontre, et Moïse allait dans la tente pour être en présence de Dieu. Parce qu'il se tenait dans la présence de Dieu que Moïse sortait avec le visage qui rayonnait, puis tout le peuple se posait des questions, que tout le monde était dans l'étonnement, qu'est-ce qui se passe avec Moïse? Et tout le monde avait crainte de Dieu en voyant ça aussi, parce qu'il se tenait dans la présence de Dieu, parce qu'il se tenait tout près de Dieu. C'est de se tenir le plus près possible de Jésus qui est le plus vital pour chacun d'entre nous. C'est tout un challenge aujourd'hui. Parce qu'on vit dans un monde hyper sophistiqué, ça va très vite, on est porté plus dans les actions, on est porté à agir, on est porté à faire plus, avec nos propres forces. Puis on oublie des fois que le plus important, c'est de s'arrêter. Vous êtes appelé à porter du fruit, beaucoup de fruits. Mais c'est impossible de porter du fruit sans se tenir près de Jésus. Puis je me le prêche à moi-même ce matin, ce message-là. C'est de se tenir le plus près possible de Jésus qui est le plus vital pour nous. C'est Jésus qui fait que l'Église porte du fruit. C'est d'être près de Jésus qui fait qu'on a une saveur, qui fait qu'on a un impact, qui fait qu'on donne envie aux autres, qu'on donne le goût aux autres d'en vouloir plus. Je me rappelais ce matin à quelqu'un, peut-être que tu es là, puis tu essayes de toutes tes forces, tu essayes, toi tu donnes, tu as donné ta vie à Jésus, puis ça fait des années là, tu fais tout ton possible pour avoir un bon témoignage, pour avoir un impact, tu fais tout ce qu'il faut là, mais ça ne repose pas sur toi, hein. Ça ne repose pas sur toi. Des fois, tu es déçu de ne pas voir plus de gens qui viennent à Jésus par ton témoignage. Tu es déçu de ne pas en faire assez. Tellement de fois, ça peut nous arriver où on regarde à nos vies puis on ne voit pas le fruit qu'on espère voir. On regarde les autres puis on se dit, ils portent plus de fruits que nous. Ça ne repose pas sur toi. Ça ne repose pas sur tes propres capacités. Ce qui repose sur toi, c'est de demeurer près de Jésus. Ça, c'est notre responsabilité. Ça, c'est notre challenge. Aussi près que possible de Jésus. C'est seulement en portant en nous, ce qui est le plus vital, qu'on sera plus qu'un bruit dans notre environnement, qu'on va attirer l'attention plus que quelques secondes, qu'on va susciter l'intérêt, qu'on va donner envie aux autres. C'est seulement en étant le plus près possible de Jésus qu'on va être capable d'être plus qu'un bruit, de faire plus que de porter des feuilles, on va porter du fruit. Vous savez, l'endroit où c'est le plus probable de rencontrer Dieu un dimanche matin, c'est l'Église. Parce que c'est à l'Église que les gens se rencontrent. Et je rappelle que c'est nous l'Église. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que Jésus a élu domicile en nous. Et là où on se rassemble, il y a un haut potentiel d'être en contact avec la présence de Dieu. Et c'est ce qu'on est appelé à être des gens qui sont remplis de la présence de Dieu. Ça va? Vous êtes avec moi ce matin? Je vous sens très calme, silencieux. Ça va? Vraiment? Yes. L'endroit où c'est le plus probable de rencontrer Dieu, c'est de se tenir à proximité d'un endroit où Dieu habite, où Dieu est, où Dieu reste. Puis je ne parle pas du bâtiment, là je parle de ma vie, je parle de ta vie, je parle de nos vies à chacun d'entre nous. Là où Jésus habite. J'ai donné ma vie au Seigneur il y a quand même plusieurs années maintenant, j'avais tout juste pas 18 ans. Et tout un parcours avant ma conversion. Puis ce qui a fait que je me suis accroché à l'Église, c'est que mon oncle m'a présenté un jeune homme qui avait étudié au Québec, qui avait vécu ici, qui sortait tout fraîchement du collège biblique, puis lui est rentré en Suisse, a commencé à s'impliquer dans notre mouvement d'église, puis moi là j'étais dans un rassemblement, je venais des fois avec mon père, puis c'était un rassemblement de, de l'ascension qui se faisait là-bas. Puis mon oncle me présente un de ses amis d'enfance qui revenait tout fraîchement du Québec. Puis je rencontre ce gars-là. Puis il y a eu quelque chose de bizarre qui s'est passé. C'est parce qu'il y avait quelque chose de spécial, ce type-là. Puis là, je commence à me poser des questions sur ça. Et en allant à des rassemblements jeunesse, parce que lui a pris la responsabilité de toutes les jeunesses de notre mouvement d'église à ce moment-là. Moi, j'étais comme in et out dans cette période. Commençais à écouter ses messages, commençais à écouter, à le voir agir. Puis ce gars-là avait Jésus. Ce gars-là avait quelque chose que je voulais. Puis je n'étais pas capable de mettre le doigt dessus. Mais quelque chose chez lui qui m'attirait. Je voulais être comme ça. J'en voulais plus. Et bien souvent, on ne le remarque même pas nous-mêmes. Je me souviens, moi, quand j'ai donné ma vie à Dieu, 3 semaines plus tard, on allait à une retraite de jeunesse, puis j'ai vécu le même affaire. Un jeune rebelle total. Moi, j'étais le petit pasteur pour lui, puis ce n'était pas positif du tout. C'était plutôt, c'était plutôt gênant pour moi à ce moment-là. J'étais le petit pasteur, il chialait tout le temps, il se plaignait, il était tout le temps en train de critiquer tout ce qu'on faisait, tout ce qu'on pouvait lui dire. Il n'aimait pas venir à l'église, puis à un moment donné, lui était là, dans cette retraite de jeunesse, puis il vient dans ma face. Le matin, on vient d'arriver, on défait les valises, on est dans ce chalet-là, puis il vient dans ma face, puis il me dit, « T'as quoi ?» Puis il me regarde comme ça, là. « C'est quoi que t'as ? T'es bizarre. Il y a un truc bizarre avec toi. » Puis là, il commence à se fâcher. « Vraiment bizarre, il y a un truc différent. T'as fait quoi ? C'est quoi qui s'est passé ?» Puis toute la fin de semaine m'a écœuré avec ça. À la fin de la semaine, à la fin de cette fin de semaine-là, de cette retraite-là, ce gars-là avait les mains levées dans le ciel, puis il cherchait Jésus. Puis c'était vraiment le fun, parce que moi, j'ai réalisé que Dieu avait fait quelque chose dans ma vie à cause de lui. Dieu avait transformé ma vie pour vrai. J'avais été délivré quelques semaines avant de plein d'affaires, de plein de vieux stocks que je gardais sur mon tableau. Puis je ne m'en rendais même pas compte. Puis le fait qu'il m'ait écœuré pendant toute une matinée comme ça, là, ça m'a permis de me rendre compte que, OK, Dieu fait des choses dans ma vie. Et à mesure que tu te tiens dans la présence de Dieu, à mesure que tu laisses Dieu agir, que tu te tiens près de Jésus, il y a un rayonnement qui prend place, il y a quelque chose qui se passe. Trop souvent, on se contente de porter des feuilles, de faire du bruit, alors qu'on est appelé à porter du fruit. Puis, plus qu'être un bruit, on est appelé à être un message qui pointe vers Jésus. On est appelé à être un message qui pointe vers lui. Je veux être plus qu'un bruit de fond, moi. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas pour nous en tant qu'Église, mais ma prière, alors que dans quelques mois, on va être avec vous, ma prière, c'est qu'ici, on voit ces rangées se remplir à vue d'œil, et de voir des gens qui viennent à Jésus pour la première fois, des gens qui cherchent, des gens qui ont soif, que Dieu nous envoie tous ceux et celles qui ont soif, que Dieu nous permette de voir ces personnes-là arriver pour chercher un secours, pour trouver des réponses à leurs questions, pour trouver des solutions, et qu'on soit prêt à les recevoir, puis qu'on soit ces personnes partout dans nos milieux, qui soient des paroles, des messages vivants, qui soient des personnes qui portent l'action de Dieu, qui sont des témoignages vivants. On veut être plus que des paroles. Moi, je prie pour des délivrances ici. Je prie pour des transformations. Je prie pour des guérisons. Je prie pour des choses qui prennent place dans ce lieu, des guérisons qui pointent vers Christ, qui soient des occasions de témoigner un petit peu partout. Je prie pour des victoires contre le péché. Des péchés récurrents dans nos vies qui vont et qui reviennent à sans arrêt. Des délivrances, des chaînes qui tombent réellement, des choses qui changent d'une manière incroyable ici. Je prie qu'on ait plus d'impact dans cette ville, dans ce quartier-là. Un quartier qui a besoin de Jésus. Une ville, une région qui a besoin de Jésus. Amen. Moi, c'est ce que je prie. Je prie ça à tous les jours. Je prie qu'à cause de la puissance de l'Esprit de Dieu à l'œuvre ici, les tentatives de destruction que l'ennemi opère jour après jour sur nos vies, sur nos familles, sur les gens qu'on connaît, tombent à terre. Je prie qu'on puisse vivre des journées banales comme Pierre et Jean. En allant à l'église, on puisse avoir une occasion de témoigner puis voir une vie transformée. Je prie pour des occasions banales comme celle-ci. Parce que c'est ce qui décrivait l'église dans les premiers temps et c'est ce qu'on est appelé encore à vivre. C'est ce qui devrait nous décrire. Ça fait partie de notre ethos, ça aussi. Oui, tout ce qu'on fait, oui, tout ce qu'on déclare, c'est vrai. C'est important. C'est important. C'est nécessaire. C'est vital. Ça fait partie de notre caractère. Mais ce qui devrait nous caractériser le plus, c'est qu'on transpire quelque part l'odeur de Christ qu'on échappe quelque part, cette présence de Dieu partout où on va. Si tout ce que tu retiens de ce message ce matin, c'est que tu dois te rapprocher de Jésus un peu plus, moi j'ai gagné. Je sais que ce n'est pas mon plus beau message que j'ai sorti, mais j'avais vraiment à cœur qu'on puisse prêcher, qu'on puisse entendre ça ce matin. On a besoin de s'approcher de Jésus. On a besoin, dans cette série vitale, de s'approcher de lui et de le chercher davantage. Cette année, on va voir des choses incroyables prendre place. Comment chaque année, Dieu agit. Mais moi, je crois que cette transition va amener aussi toutes sortes de choses qui vont nous permettre de voir la gloire de Dieu davantage et davantage dans nos vies. On a besoin de voir Dieu à l'œuvre dans cette région. On a besoin de voir Dieu. C'est vraiment bizarre. Je vous donne un petit témoignage, ce n'est pas du tout dans mes notes, ça. Il y a une semaine et demie, j'étais à un rassemblement de pasteurs dans notre mouvement, puis ça m'a vraiment fait bizarre parce que ça fait 12 ans qu'on est au Québec, puis j'étais dans une rangée. On a tous gravité plus ou moins dans le même collège biblique, ceux qui sont impliqués, on a tous étudié à l'ITF pour la plupart d'entre nous. Puis la plupart des gars avec qui j'ai étudié au collège biblique, ça fait plusieurs années maintenant, on était quasiment tous dans la même rangée. On est un peu partout au Québec et on n'aurait jamais imaginé, il y en a plusieurs qui sont rendus dans cette région. Il y en a plusieurs, même je textais un ami dernièrement, je dis « Hey, ça fait 5-6 ans qu'on ne s'est pas vu, il venait dans notre petit groupe, t'es rendu où ?» Il me dit « Je suis à Québec ». On se retrouve toute une gang dans la même ville. On n'a jamais imaginé un jour être dans cette région. Et je crois, c'est vraiment bizarre parce qu'on est beaucoup à graviter dans cette région-là. Puis je crois que Dieu veut faire quelque chose. Dieu veut faire quelque chose de particulier dans cette région. On parle beaucoup de Québec comme la capitale. On parle de Montréal, c'est la métropole. Il y a tout qui se passe à Montréal. Mais moi, je crois qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire aussi dans cette région-là, de particulier. Puis ça n'a rien à voir avec nécessairement nous, mais nous, on a le privilège d'être les témoins de ce que Dieu veut faire. Alors, soyons des acteurs dans ce que Dieu veut faire. Soyons prêts à agir, soyons prêts à se laisser utiliser par lui. Acte 1, verset 8, Jésus va dire à ses disciples, alors qu'il s'en va vers le Père, vous allez recevoir, attendez à Jérusalem, attendez, patientez, la promesse que je vous ai faite, elle va arriver. Par la suite, va leur dire, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça commence ici, ça commence avec mes amis, ça commence avec mes collègues, ça commence avec les gens que je côtoie, avec les gens que je peux croiser dans différentes occasions, ça commence avec les gens qui sont assis à côté de moi, à l'église. Moi, j'ai toujours été frappé dans les églises que je visite de voir comment des fois on peut être dans la même salle, je l'ai déjà vécu moi-même, hein. On est 200, 300, des fois on est une centaine, des fois on est même moins, puis les gens qui sont assis à droite ne connaissent pas les gens qui sont assis à gauche de la salle. On commence par ici, on commence tout près. Ça s'étend. Et c'est comme ça que Dieu agit. C'est comme ça que Dieu veut répandre la bonne nouvelle du salut qui a été donné en Jésus. C'est comme ça qu'on est appelé à fonctionner. Et c'est alors que tu te tiens près de Jésus, dans la présence de Dieu. Je vais appeler les musiciens à me rejoindre. Quand tu te tiens dans la présence de Dieu, quand tu choisis de te tenir près de Jésus, c'est là qu'il y a une passion qui grandit en toi. C'est là que ma volonté à moi commence à se calquer sur la volonté de Dieu davantage. Ma volonté à moi pour l'Église, elle change. Et elle commence à se calquer sur le plan de Dieu pour l'Église. Vous savez, une des choses qui caractérise le plus le plan de Dieu pour l'Église, moi ça me frappe à chaque fois, c'est de voir la croissance. Tout ce qui vit, tout ce que Dieu a créé, qui a vie sur cette terre, grandit. Tout. Un bébé, ça grandit. Dans la nature, les végétaux grandissent, ça évolue, ça commence tout petit, puis ça grandit. Les animaux, c'est pareil. Tout ce qui vit, grandit. Tout ce à quoi Dieu a donné vie est appelé à progresser. Puis c'est même ce que l'apôtre Paul va dire dans Colossiens. Tout ça, on parle de Jésus, de sa suprématie, de sa grandeur. Moi, j'en suis le porteur, j'en suis le témoin, je porte ce message-là, afin que vous puissiez parvenir à la maturité en Jésus. C'est ce que Paul va dire lui-même. La croissance. On est appelé à progresser, à grandir dans notre relation avec Dieu. Mais à mesure qu'on grandit dans cette relation, dans cette proximité avec Jésus, c'est drôle, mais l'Église grandit aussi. L'Église prend de l'expansion. L'Église, le royaume de Dieu grandit. La lumière brille davantage au milieu des ténèbres. Et c'est ce qu'on est appelé à vivre. As-tu soif ce matin? Ça, c'était la grande question que j'avais. Puis c'était la grande question que je me posais moi aussi quand je préparais ce message. As-tu soif, toi? As-tu soif de plus? Veux-tu plus de Jésus? Veux-tu être plus dans sa présence? Ou est-ce que tu as besoin de plus de feux d'artifice, puis d'activités, puis de toutes sortes d'affaires pour te distraire? As-tu besoin de plus de Jésus? Moi, je veux plus de Jésus cette année. Je veux refuser toutes les distractions possibles. Je veux refuser toutes les choses qui pourraient nous faire dévier de notre plan, de notre appel, de notre direction. Je veux plus de Jésus. Je veux plus de sa présence. Ce matin, si tu es venu pour trouver un secours, tu es à la bonne place. Tu es à la bonne place. Tu es venu pour chercher des solutions, tu es à la bonne place. Tu es venu pour être fortifié, tu es à la bonne place. Tu es littéralement à la bonne place. Tu es venu pour chercher le pardon, comme ce tableau en est un peu l'illustrer. Tu es à la bonne place. C'est là qu'on vient. J'ai besoin de trouver le pardon, j'ai besoin de trouver la grâce. Ben, je suis au bon endroit. Parce que c'est là que je vais pouvoir être pardonné, c'est là que je vais pouvoir réaliser tout ce que Dieu a fait dans ma vie. À cause de Jésus, tu es à la bonne place. Pas à cause de moi, pas à cause de quiconque. On est tous des bonnes personnes, là. C'est le fun de se côtoyer, c'est le fun d'être ensemble. Mais c'est pas à cause de nous, c'est à cause de lui. Tu es à la bonne place parce que Jésus est là. Tu es à la bonne place parce que Jésus peut transformer les circonstances. Tu es à la bonne place parce que Jésus peut se servir de toi pour changer des vies autour de toi. Tu es à la bonne place parce que les seules choses que nous, on ne peut pas faire, Dieu, lui, peut les faire avec aisance, miraculeux, pour accomplir des transformations. Il peut ressusciter des vies qui étaient dans une mort spirituelle, peut tout transformer. Dans Jean 7, le verset 37 à 39, Jésus, qui était tout entouré de plein de monde, debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, mais qu'il vienne à moi et qu'il boive, et celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Et il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient, qui croiraient en lui. C'était une promesse à venir à ce moment-là, quand Jésus a déclaré ces mots. Mais depuis la Pentecôte, cette promesse a été accomplie. Et quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu tournes vers lui, quand tu t'approches de lui, la promesse, c'est que Dieu dépose son Esprit dans ta vie. Il met un dépôt en toi, il met une empreinte du ciel sur toi, qui fait que tu peux rayonner. Que tout ce que tu vas faire, que tout ce que tu vas être, que tout ce que tu vas... ça va déborder de toi, partout où tu vas aller. Ouais, on est imparfait, on reste imparfait, je reste pécheur, je reste faible, je reste plein de fautes. Malheureusement, c'est ça, sur cette terre. Mais parce que Jésus a tout accompli, parce que par la grâce qui a été déversée à la croix, il y a eu un transfert qui a pris place, ben, je peux rayonner en son nom, me pointer vers lui. Est-ce que tu as soif ce matin? Je prie pour vous ce matin, on va prendre un dernier chant ensemble. J'aimerais vraiment qu'on puisse chercher Jésus quelques instants. Seigneur, je te demande de prendre toute la place ce matin. Le vrai moment, c'est maintenant, Seigneur. C'est dans ta présence, c'est près de toi. C'est tout près de toi, Seigneur, alors qu'on s'approche de toi, alors qu'on regarde à toi. Seigneur, merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour la croix. Seigneur, dans quelques semaines, on va se souvenir de ce qui a pris place lors de ce vendredi où tu as été crucifié, lors de ce dimanche où tu es ressuscité. Seigneur, que tu puisses parler à nos cœurs dans les prochains jours. Seigneur, nous rappeler la puissance de ton œuvre. Nous rappeler la toute-puissance, la suprématie, Seigneur, qui t'appartient. À toi appartient le règne, à toi appartient la puissance, à toi appartient la gloire sur cette terre, Seigneur. Et partout dans l'univers, tu es maître de tout. Tout a été créé pour toi. Tout a été fait par toi. Tout pointe vers toi. Seigneur, c'est à toi qu'appartient tout. Et Seigneur, ta parole nous rappelle que tout genou fléchira devant toi. Alors ce matin, Seigneur, nous voulons t'adorer. Ce matin, nous voulons s'approcher de toi. Seigneur, je veux plus de toi. Plus de toi. Plus de toi dans ma vie. Plus de toi dans la vie de ceux qui nous entourent, Seigneur. On veut crier à toi, Seigneur, pour que tu puisses agir avec puissance, que tu puisses faire en sorte que nos vies soient plus que des bruits qui se font oublier, que nos vies puissent être des messages qui pointent vers toi. Nous voulons, Seigneur, non pas être un gros feuillage, Seigneur, on veut porter du fruit. On veut porter du fruit. Alors, Seigneur, agis au milieu de nous ce matin. Enlève ce qui est à enlever. Transforme ce qui est à transformer, Seigneur. Viens, Seigneur, émonder ce qui est à émonder dans nos vies pour que tu puisses prendre de la place, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Moins de nous et plus de toi. Seigneur, agis avec puissance au milieu de nous, comme tu sais si bien le faire, comme tu veux le faire. Prends toute la place, littéralement, dans le nom de Jésus. Et Seigneur, je veux te prier particulièrement pour quelqu'un qui vient et qui porte un fardeau sur lui ce matin, qui est venu chercher un secours. Seigneur, tu dis, venez à moi si vous avez soif. Je veux vous donner tout ce dont vous avez besoin. Seigneur, que cette personne puisse trouver, Seigneur, ce qu'elle est venue chercher auprès de toi, Seigneur. Que tu puisses agir dans sa vie. Que tu puisses transformer sa vie. que tu puisses lui déclarer, Seigneur, ces mêmes paroles que tu nous as déclarées, que tu nous as dit, qu'on était pardonnés, qu'on était aimés, qu'on était choisis par toi. Seigneur, on ne l'a pas inventé, tu l'as fait, Seigneur. Alors que ce secours puisse être trouvé en toi ce matin pour cette personne. Dans le nom de Jésus. Amen.